Le 9 juin 2022, nous avons accueilli Véronique Matignon-Ménard, DRH du groupe Vinci Énergie. Elle nous a présenté l'approche très spécifique de ce groupe en ce qui concerne les acquisitions et les intégrations. Le podcast qui suit est un résumé de son intervention.
Alors Vinci Énergie, d'abord, vous entendez le nom Vinci, donc c'est une des grandes activités de Vinci, donc Vinci qui est le groupe coté. Et dans Vinci, on a un modèle qui est un modèle de complémentarité des activités, mais chacun ayant son domaine spécifique d'intervention et une vraie autonomie tant dans l'organisation que dans la façon de gérer nos business, nos affaires. Et puis, on partage un certain nombre de choses avec le groupe, mais on a aussi notre vrai espace. Et donc, on n'est pas du tout, dans Vinci, un groupe centralisé. Mais alors, vraiment, pas du tout. En fait, notre métier, c'est de faire de la conception, de la construction, et de la maintenance, donc ça c'est vraiment des métiers de services techniques, sur des objets qui vont concourir, alors sur des objets ou sur des infrastructures, qui vont concourir à la transition, alors ce qu'on dit aujourd'hui, enfin ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, parce que ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on le dit, donc voilà, dans Vinci Énergie, qui vont concourir à la transition énergétique, ou à la transformation digitale. Je vais revenir juste rapidement après sur nos métiers pour que vous compreniez mieux, mais en fait, nous, on n'exploite pas des infrastructures d'énergie, on ne produit pas d'énergie, par contre, on est ceux qui ne se voient pas beaucoup, mais qui derrière, bah, les conçoivent, les construisent et les maintiennent pour ceux qui les exploitent et qui amènent différents types d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut avoir vraiment en tête? C'est notre notion d'entreprise. Vous verrez, j'y reviendrai après. En anglais, on dit business unit. C'est pas très différenciant. En français, on dit entreprise. C'est beaucoup plus différenciant. C'est-à-dire que derrière la notion d'entreprise, il y a l'idée que quelqu'un en est responsable. Dans notre jargon, le chef d'entreprise. Et il y a aussi l'idée, là aussi, d'une autonomie dans un cadre qui est partagé, mais d'une vraie autonomie, donc d'un espace de décision et d'un espace d'engagement et de chef d'entreprise, mais bien sûr de toute son équipe. Mais ce qui, sur les 20 premières années des années 2000, a été le driver majeur, c'est de la croissance par voie d'acquisition. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu, fin 2021, on avait fait 350 acquisitions en 20 ans. 2021 et 2022 ne sont pas des très grosses années, on va tourner aux alentours de 20-25 croissances externes. Et donc, ça nous a permis d'accélérer notre croissance sur des marchés sur lesquels nous n'étions pas présents, que ce soit des marchés en termes de technique ou des marchés en termes de géographie, et donc de créer des bases à partir desquelles on peut continuer à se développer d'un point de vue organique. Ça nous a aussi, bien entendu, permis de créer en fait une dynamique de culture en faisant venir chez nous des gens qui ont un autre regard, une autre expérience, mais une compatibilité, et on y reviendra après, dans leur façon de manager. On a des acquisitions qui vont être, comment est-ce que je dirais ça? En fait, de la taille d'une entreprise. Alors, je ne vous ai pas parlé de la taille de nos entreprises. D'abord, il n'y a pas de bonne taille dans les entreprises. Quand je suis arrivée chez Vinci, je me dis, il y avait un mot qui circulait qui disait mais ça doit faire 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était il y a plus de 10 ans. Mais en fait, il n'y a pas de bonne taille dans les entreprises. C'est la taille du marché qu'une entreprise peut adresser avec l'idée d'une proximité forte et vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses salariés. Donc, quand le marché devient trop gros ou pas très lisible, finalement, on a tendance à dire on va faire deux entreprises. Donc, la taille d'une entreprise, on va dire que, pour vous le faire simple, c'est entre des activités qui font 5-6 millions d'euros à des activités qui vont faire une quinzaine, 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on a des acquisitions de cette taille-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une PME, hein, si je le mets sur le marché français, c'est une PME qui va venir compléter des savoir-faire que nous avons ou des positionnements marchés que nous avons, que nous, des savoir, soit que ça complète des savoir-faire, et donc en fait c'est vraiment un ajout pas vraiment sur le côté technique, chiffre d'affaires, c'est pas vraiment sur le côté chiffre d'affaires, mais c'est plutôt on va aller chercher des compétences, je vais aller le dire comme ça, et une offre que l'on va développer, soit effectivement un positionnement spécifique dans une niche sur un marché. Et ça, c'est le premier type d'acquisition. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acquisitions, on va dire c'est la moitié de nos acquisitions qui se font à travers ces tailles-là. On a un deuxième type, c'est celle que j'appellerais les acquisitions de taille moyenne. Et là, on est entre 30 millions et puis 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on a déjà une vraie entité qui d'abord existe généralement depuis très longtemps, qui a son propre marché et qui va venir à nouveau compléter, mais alors là, de façon beaucoup plus large, sur ou un positionnement marché géographique ou un positionnement métier. Et puis on a les acquisitions de beaucoup plus grande taille. On en fait moins en ce moment. La dernière que nous avons faite date d'il y a 3 ans. Oui, la dernière de cette taille-là que nous avons faite date d'il y a 3 ans au Canada. Là, on dépasse la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut même aller beaucoup plus au-delà. Et là, ce sont des activités qui vont finalement venir se glisser dans l'organisation à un niveau beaucoup plus élevé. On va dire, pour le faire simple, pour ceux qui connaissent les organisations un peu hiérarchiques, on va dire au niveau N-2 du président de Vinci Énergie. C'est que, évidemment, une réussite, on ne la connaît qu'au bout de 2 ou 3 ans. C'est évident. On sait qu'on a des critères ou des éléments qui sont quantitatifs et qualitatifs, qui sont importants pour nous pour voir, pour suivre ce succès de l'intégration. Et c'est quoi ces éléments qualitatifs? Eh bien, on revient à la mise en place de nos principes, de notre modèle d'organisation et de système de management. Donc, l'organisation à travers des entreprises, la capacité de ces entreprises à rentrer dans notre dynamique de réseau, c'est-à-dire à travailler avec d'autres entreprises qui sont soit de la même géographie, soit du même métier sur plusieurs géographies. La volonté et la mise en œuvre de nos. La volonté d'abord, puis la mise en œuvre, je vais le dire comme ça, de nos formations, on a une quinzaine de formations qui nous permettent d'expliciter au poste clé ce que l'on attend de chacune des personnes, la mise en place de ces formations-là et le suivi de ces formations-là. Et puis, la mise en place de nos modèles de gestion, c'est-à-dire les délégations de pouvoir, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on suit, bien sûr, nos affaires au fur et à mesure de leur réalisation, de notre modèle de comptabilité et de suivi analytique, et puis de quelque chose qui est une dynamique que l'on a avec certains rituels chez Vinci Énergie, mais une dynamique en fait qui a vocation à mettre le chef d'entreprise en notre position d'autonomie et dans la réflexion sur comment est-ce qu'il va développer son marché dans le futur, tout en étant en cohérence avec ce qui se fait dans les autres entreprises de Vinci Énergie, mais en comprenant son marché et ses salariés. Ça, c'est un premier lot. Évidemment, on a un lot de suivi sur les salariés que l'on a, les collaborateurs que l'on a identifiés sur des positions clés, ou des collaborateurs dont on a identifié vraiment le côté critique de leur savoir-faire, eh bien, on suit si ils ne vont pas nous quitter dans les premières années. Ça, c'est un critère important de succès d'acquisition. Il y a un autre critère, évidemment, qui est important dans nos métiers. Nous avons des métiers qui peuvent être parfois représenter une forme de risque, hein, d'intégrité physique, parce que vous avez vu sur le premier slide, on a quand même des gens qui sont parfois sur des pylônes très hauts. Il n'y a pas que ça, mais évidemment, ça se fait pas en n'ayant pas un certain nombre de respect de règles de sécurité. Et donc, comment est-ce que l'on met en place cette culture de sécurité? Comment est-ce que ça s'adapte et surtout ça s'appréhende au niveau des nouvelles acquisitions. Et puis d'un point de vue managérial, eh bien, le jour où on a les dirigeants de ces sociétés ou ces structures que nous avons acquises, qui disent, qui en fait deviennent les ambassadeurs de Vinci Énergie et disent, mais alors là, en fait, chez Vinci Énergie, mais nous, on a trouvé, en fait, non seulement on n'a rien perdu, mais en plus, on a trouvé autre chose, un modèle complémentaire qui nous permet d'exprimer encore plus et nos valeurs et notre modèle managérial et notre business, là, on est sûr que l'on a gagné. Voilà, donc tout ça, ça se suit. Évidemment, en plus des indicateurs financiers, vous connaissez tous, ça, il n'y a absolument aucun. Mais ça se suit au même niveau. C'est-à-dire que c'est vraiment cet aspect-là qui va être important, évidemment, le qualitatif étant un peu différent à suivre que le financier, mais un qualitatif qui marche très bien, avec un financier qui a un tout petit peu plus de mal à s'en sortir, bah, on pourra dire, mais quels moyens on peut mettre à leur côté pour les aider à pouvoir s'en sortir d'un point de vue qualitatif. Et puis à la fin, bah comme tout le monde, ça veut dire qu'on a augmenté notre présence, nos activités, soit dans une zone géographique, soit dans un métier, bien sûr. Ça, c'est très simple. Il y a quelque chose qui est très important, et vous m'avez entendu parler beaucoup du management chez Vinci Énergie, c'est l'implication de ceux qui vont manager. Et c'est vraiment important, c'est important, et la mise en responsabilité de ceux qui vont manager. Et c'est vraiment important, c'est important pour notre business, je vous ai parlé de l'entreprise, mais c'est important pour nos acquisitions. Et donc, je pense qu'il y a un premier facteur clé de succès qui est celui d'avoir, ne pas avoir une équipe de due diligence ou une équipe d'acquisition. Quelque part perché au niveau de Vinci Énergie. On a tous, évidemment, au plus haut niveau de dirigeants, donc jusqu'au COMEX de Vinci Énergie dont je fais partie, on a tous une grande expérience, chacun dans notre domaine. Et alors, bon, moi, j'ai vraiment une casquette très particulière, mais bon, ma vie professionnelle, mes vies professionnelles, mais on a tous fait beaucoup d'acquisitions. Donc, on connaît tout des acquisitions. On connaît tout de ce qu'on peut connaître des acquisitions, en tout cas. On a ce savoir-faire-là. Mais ce qui fait que lorsque l'on se lance dans une réflexion, en fonction de la taille des enjeux, le niveau de managers et de dirigeants qui vont être concernés va différent. Évidemment, si on fait une acquisition à 500, 600 millions d'euros ou plus, bah, ça va remonter au niveau où nous en sommes, au niveau du COMEX, au niveau où je suis. Mais si on fait une acquisition plus petite, c'est plus bas. Mais dans l'organisation, ça peut être un périmètre de direction, c'est-à-dire quelqu'un qui va manager plusieurs entreprises. Mais c'est les gens qui repèrent les sociétés qui peuvent être acquises, qui vont aller faire les premiers contacts avec le management, qui vont aller faire les due diligence et qui vont vendre Vinci Énergie, pour être propre, pour à proprement parler, et qui vont accompagner l'intégration. Et ça, c'est pour moi un critère différenciant qui joue un rôle important dans le succès de nos acquisitions. Comme on a cet usage, cet ADN qu'on a développé au fur et à mesure des années, de travailler en réseau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de barrière en fait. Naturellement, on a, alors dans nos valeurs, on dit qu'on a la générosité, ça vous semble un peu, voilà, ou la solidarité, ça peut sembler un peu dans l'absolu, mais de la solidarité, ça veut dire aussi que bah, naturellement, on va pouvoir partager des compétences, des connaissances, des expériences qui vont enrichir les autres. Donc, c'est cette implication managériale qui est enrichie de tout le savoir-faire, en fait, qui s'est développé au fur et à mesure des années, dans différents contextes des uns et des autres, c'est un élément fort de réussite. Et ça crée aussi, lorsque l'on fait une acquisition, alors après, on a différents types d'acquisitions, vous le savez comme moi, il y a le gré à gré, c'est-à-dire les gens qu'on connaît, hein, donc ça, c'est ce qu'on a plutôt dans les petites PME. Évidemment, quand c'est la vente par un fonds, c'est un peu différent, mais ça crée ce lien avec ceux qui vont rester managers et qui vont donc venir nous retrouver, parce qu'on ne peut pas mentir. On est honnête dès le départ. On est transparent et honnête dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne fera pas une acquisition si on n'a pas de backup managérial. Si on se dit, mais là, on va acquérir quelque chose qui a de la valeur et qui a de la valeur aussi à travers ses hommes et on ne va pas pouvoir les manager. Ça, c'est un no-go, quoi. C'est clairement un no-go. Donc, on ne fait pas une acquisition si on n'a pas le backup managérial et pour accompagner le manager en place ou celui qu'on va nommer très opérationnellement, donc un niveau, on va dire, de dirigeant, pour se le faire simple, et si on n'a pas un backup en disant, mais alors si le manager qu'on a choisi, pour des raisons X ou Y, ça ne marche pas, ou lui-même dit, moi je reste 18 mois, mais après je m'en vais, ça arrive aussi, il faut qu'on ait déjà identifié quelqu'un ou qu'on se dise, on peut envoyer quelqu'un pendant 2-3 ans, le temps qu'on identifie les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que sur les fonctions support, hein, qui sont évidemment des fonctions qui vont nous permettre de rentrer dans nos systèmes et qui sont les aspects financiers, informatiques, RH, parfois juridiques aussi, eh bien, il faut aussi qu'on ait identifié les bonnes personnes et qu'on ait identifié qui, historiquement, de chez VinCynergie, va pouvoir les accompagner. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ce sont des vrais. L'absence de ce type de manager-là pour accompagner les acquisitions ou de fonction support peut nous amener à faire un no-go. On
D'accord.
considérera que c'est trop dangereux. Parce
OK.
que dans ce cas-là, on ne pourra pas amener l'entreprise que l'on achète à s'intégrer. Il faut comprendre que quand on fait une acquisition, le manager qui va être chargé de cette intégration, donc cette organisation qui va venir rejoindre notre modèle. Prenons un exemple, ça se passe au niveau d'un périmètre de direction. Il est auprès du manager et il est auprès des équipes 2 ou 3 fois par mois. Alors lui-même, ou des équipes support, ou par exemple, moi je vais faire une, je vais aller visiter. Je vais faire un voyage à l'étranger et je vais en profiter pour aller les saluer, aller visiter des chantiers, voir les gens, discuter. C'est aussi vrai pour le président de VinCynergie. Donc toute l'organisation hiérarchique à côté de celui qui est N plus 1 va venir voir, discuter, échanger. On fait des learning expeditions. Donc du coup, comme on est en grande proximité, on a bien sûr des fois on le voit qu'avec des indicateurs, bon, mais surtout, et c'est pour ça aussi qu'on en a mis, hein, mais surtout, en fait, on voit les signaux faibles. Parce qu'on discute avec les gens, parce on est beaucoup dans l'informel. Quand j'ai rejoint Vinci Énergie, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai été accueillie par le futur président de Vinci Énergie, qui n'est pas celui actuel, mais qui était le précédent. Il a passé 2 jours avec moi. Il m'a dit, de toute façon, pour m'expliquer Vinci Énergie, il m'a dit, écoute, c'est assez simple. Quand on fait une acquisition, tu vois ce qui se passe en allant sur le chantier, en discutant avec les gars. Tu vas voir dans les campagnes, s'il y a des cabanes de chantier, tu vois avec eux comment ils organisent leur chantier. Tu discutes avec eux de l'organisation. Et tu passes du temps. Et l'idée, c'est que, évidemment, la ligne managériale passe du temps, mais les lignes support passent du temps. Ce qui nous permet de pouvoir voir les signaux faibles. Et c'est vrai qu'il y a quelques cas dans lesquels on voit que ça va pas très bien. Et c'est comme ça, en général, que l'on va être amené à prendre des décisions qui sont des décisions de nature managériale, donc de changer un management qui est défaillant dans la période d'acquisition. Si on n'a pas de proximité, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête. Et donc, on ne peut pas répondre ni aux peurs qui peuvent exister, ni aux besoins qui peuvent exister. Et donc c'est en comprenant, donc en étant en proximité, en faisant émerger la subsidiarité, localement, c'est eux qui savent ce qui est le mieux comme type d'organisation. C'est eux qui savent ce qui est le mieux pour leurs clients, pour leurs salariés. Et donc ça, c'est une deuxième, je trouve, c'est un deuxième driver important. Et puis le dernier driver, si je devais en donner un dernier, c'est quand même que c'est un métier. On regarde toujours l'aspect expertise métier des due diligence ou de la négociation de l'accord d'acquisition, mais en fait, les intégrations derrière, c'est un vrai
Merci
métier.
beaucoup.
Les intégrations derrière, ça nécessite de l'expérience. Donc, essayez d'échanger avec ceux qui ont de l'expérience pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Puis après, c'est comme un recrutement. Parfois, il y a des choses qu'on pensait qui allaient marcher, ça ne va pas marcher.